Strasbourg pilote, arts et lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Lucie Taïeb, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de faire paraître aux éditions Flammarion un titre, un livre intéressant, La mer intérieure, la mer, l'océan, la mer marine. Et c'est sous-titré Enquête d'un paysage effacé. Enquête en deux mots. Et là est la subtilité du livre. Donc il y a un jeu une homophonie entre l'enquête qui est une recherche. Donc le titre, c'est La mer intérieure. Et il y a une homophonie avec la mère, la maman intérieure, celle que nous portons toujours dans notre ventre jusqu'à la fin de notre vie. Donc il y a ce rapport très ambigu et très intéressant entre l'homophonie des expressions et la réalité de ce qu'est le livre, puisque le livre, le sujet profond, essentiel, c'est le départ d'une enquête sur une mine de charbon désaffectée qui est promu pour devenir un lac artificiel et une station très, très élégante de sport et puis de villégiature. Voilà. Il y a ça et le récit que vous faites, un texte littéraire très, très, très abouti. Donc il y a cette espèce de hiatus entre le sujet, la mine, et puis ensuite le texte, cette sédimentation de différentes capillarités, de cette sédimentation qui fait un texte littéraire tout à fait excellent, qui m'a beaucoup convaincue. Moi, au départ, avant de lire votre livre, j'ai lu le titre et ça m'a captée, ça m'a captivée, cette mer intérieure. J'avais l'impression de voir une peinture abstraite avec un noir informel, des miroitements, des ombres à l'intérieur, des variations de gris. Et ça m'a attirée comme un gouffre. J'ai eu envie de lire ce livre avant de le lire. Et alors, quand j'ai commencé à lire, que j'ai vu que le sujet, c'était une enquête, une mine de charbon qui est finie d'être exploitée, j'ai été un petit peu déçue. Comme si j'avais été induite en erreur. Et puis, je me suis dit, bon, je vais voir comment elle se débrouille pour arriver à sortir de la mine littéraire, c'est-à-dire il y a un sujet qui est un peu opaque, qui n'est pas poétique ni littéraire au départ. Je me suis dit, comment elle va se débrouiller en écriture pour atteindre un texte digne d'être publié. Et puis j'ai lu, et puis ça m'a intéressée. Effectivement, de temps en temps, il y avait des digressions, il y avait plusieurs territoires différents, mais il y avait cette sédimentation à la fin. Moi, j'ai goûté votre écriture. Alors voilà, j'avais ça sur le cœur, je voulais le dire. Très sincèrement, c'est un très bon livre et très intéressant autour d'une enquête. Enquête, c'est-à-dire une recherche, et aussi donc une enquête. Êtes-vous anthropologue, géographe, mais vous êtes un écrivain, ça c'est sûr.
Oui, alors en fait, je suis ni anthropologue ni géographe, mais je vais sur des terrains qui pourraient être ceux de l'anthropologie ou de la géographie, et que j'aborde plus de manière poétique, précisément. Moi, mon métier, c'est d'être chercheuse en littérature, et j'enseigne également à l'université de Brest. Et quand j'ai découvert cette histoire, effectivement, dont vous parlez, d'une ancienne mine de charbon en ex-RDA, qui devait être réhabilité est transformée en lac, je me suis dit, mais quelle drôle d'idée. C'est pas possible de transformer comme ça un paysage complètement. Et ça m'avait d'autant plus intéressée que dans mon précédent livre, qui s'appelle « Fresh Kills », je m'étais intéressée à une décharge qui était, après des années d'exploitation, transformée en parc. Donc au départ, moi je suis rentrée sur ce terrain par cette idée de la mutation, de la transformation. Qu'est-ce que devient un paysage après avoir été dévasté ? C'est un peu ça la question que je poursuis.
Alors, dire déjà que vous êtes agrégée en allemand, titulaire d'un doctorat en littérature comparée, la thèse, le titre de la thèse, c'est « Territoire au pluriel de mémoire, l'écriture poétique à l'épreuve de la violence historique ». Et là, nous avons souligné un peu ce hiatus entre les territoires historiques et l'histoire, la géographie et l'effet sur nous humains. Et j'ai pensé un petit peu à George Orwell, 1984, par le langage, une civilisation est complètement transformée. Donc il y a bien une incidence de l'histoire, de la géographie, de ce qui se passe sur nous, notre psychisme, notre façon de vivre, d'être, de souffrir, de continuer à vivre. Ça, ça m'a beaucoup aussi intéressée. Est-ce que vous pourriez revenir sur ces territoires de mémoire de votre thèse ?
Oui, alors, ma thèse de littérature comparée, elle portait sur des œuvres poétiques de trois auteurs. C'est comme ça qu'on travaille en littérature comparée. Donc, j'avais une auteure de langue allemande, qui est Nelly Sachs, un auteur de langue française, Edmond Jabès, et un auteur argentin, qui s'appelle Juan Hellman, et qui sont trois auteurs juifs, et qui ont été confrontés de manière différente à la violence historique, puisque Nelly Sachs a dû fuir l'Allemagne en 1940 parce qu'elle était juive. Elle a pu se sauver, être sauvée in extremis. Elle s'est réfugiée en Suède. Edmond Jabès, lui, c'est un auteur donc qui est né en Égypte et qui a évidemment, comme tous les juifs séfarades qui sait bien que la Shoah a eu lieu mais qui n'a pas été directement concerné, simplement il est venu ensuite en France en 1956. Et Juan Hellman, lui, est un auteur argentin qui a échappé à la dictature argentine et aux assassinats de masse qui ont été commis pendant la dictature argentine, parce que lui-même était en exil à ce moment-là, mais c'était un opposant à la dictature, et beaucoup de ses amis, qui étaient des opposants aussi, ont été assassinés. Et donc la question que je me posais, c'est dans quelle mesure un langage poétique, qui n'est pas toujours explicite, dans quelle mesure la poésie peut prendre en charge la mémoire de ceux qui ont été assassinés. Et puis aussi, comme les auteurs étaient juifs, je remarquais que ces trois auteurs revenaient sur des aspects de la mystique juive, comme par exemple la question de l'exil, et que ça leur permettait de relire leur propre histoire, leur propre exil, et de reformuler aussi des choses de leur propre histoire.
Alors, vous avez parlé de juifs et vous avez parlé aussi, vous n'avez pas parlé de ça, mais vous êtes donc germaniste. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette langue ? Et si je puis, puisque je suis toujours franche, je dis ce que je pense, votre nom de famille implique des territoires méditerranéens au niveau linguistique. Il y a donc encore un hiatus, Taïeb, l'allemand. voilà. Et donc, expliquez-moi, je ne suis pas à la recherche de cohérence, mais j'aime bien faire les liens entre les choses.
Oui, alors effectivement, mon père est né en Tunisie dans les années 40 et dans une famille juive, comme l'indique mon nom, et c'est lui qui avait eu cette drôle d'idée, alors qu'il était vraiment là, très très proche de la fin, enfin il est né pendant la guerre en 41. C'est lui qui a appris l'allemand au collège en 6e. c'est le seul de sa famille à avoir fait ça. Puis ensuite, il est venu en France. Ma mère était bretonne. Et de cette union sont nés plusieurs enfants, dont moi-même. Et on a été bonnes élèves, mes sœurs et moi. On a appris l'allemand à l'école. Et moi, c'est un petit peu un concours de circonstances. C'est pas vraiment. C'est plutôt une passion pour les langues en général et le fait que l'allemand était ma première langue qui m'a conduite finalement à poursuivre cet apprentissage. Alors peut-être qu'il y a des motifs ou motivations plus profondes, mais je les ai pas vraiment creusées. J'aime beaucoup l'anglais aussi. J'ai traduit l'espagnol. Le poète dont je vous parlais, Juan Gelman, j'ai traduit quand je travaillais sur ma thèse. Il se trouve qu'après, comme j'ai fait des études d'allemand, j'ai été amenée à vivre en Autriche et puis en Allemagne.
Alors, je voulais aussi vous remercier pour votre dédicace intitulée telle que « Récit d'un voyage, d'une perte aux multiples visages et d'une possible réparation ». Alors là encore, il y a une réfraction de plusieurs idées, de plusieurs images. Est-ce que vous pourriez, j'ai beaucoup aimé, c'est poétique et comme vous le dites, dans la poésie, il y a un flou artistique que l'on investit soi-même par sa propre interprétation. Donc là, ça m'a parlé. Alors, est-ce que vous pourriez revenir sur une perte aux multiples visages, perte donc de cette mine qui disparaît, puisque le livre s'ouvre sur une image, celle d'un couple allemand attaché et arraché au lieu, attaché par le labeur de la terre et les liens affectifs que le temps d'une vie a tissé et chargé de mémoire, et aussi arraché, ces gens, ce vieux couple, est arraché enfin par les forces de l'exploitation et l'extraction de ce charbon, de ce qui est en fait une mine de charbon, et c'est en RDA. Alors, il y a donc tous ces éléments, toutes ces différentes géographies qui se donnent la main, et ça fait rêver.
Oui, alors... En fait, c'était, comme je vous l'ai dit, c'était cette question de la mutation environnementale qui m'intéressait, mais aussi la grande question que je me posais, peut-être d'une certaine manière que je me pose depuis ma thèse, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe après l'arrachement, en fait. Et c'est un peu donc je suis allée dans cette région pour essayer de comprendre ce qui s'était passé et c'est la question qui m'a guidée c'est de savoir comment on accepte ou comment on n'accepte pas d'être arraché au lieu dans lequel on a vécu. Et là, en l'occurrence, ce que j'ai trouvé en essayant de me renseigner sur l'histoire de l'un de ces villages, en fait, c'est toute une région. Et puis, c'est une région en Allemagne de l'Est. Là, précisément, je m'intéresse à un lieu spécifique, mais en fait, l'histoire des mines, c'est des histoires de villages qu'on détruit, pas seulement en Allemagne, partout où il y a des mines, en fait. Hein. Mais en tout cas, ce que j'ai trouvé dans cette recherche, c'est l'histoire d'une lutte. Qui commence avant la chute du mur, donc qui commence en RDA, où on annonce aux habitants d'un village que leur village va être rasé parce qu'on exploite une mine, tout simplement, et donc qu'ils doivent trouver un moyen dans quelques années de se reloger. Et là, les habitants du village essaient de résister, tout en sachant bien qu'ils ont une marge de manœuvre assez restreinte. Dans un régime comme celui de la RDA. Puis le mur tombe, le village n'a pas été encore rasé. Là, les habitants ont l'espoir de pouvoir, par la lutte, dans une démocratie, faire entendre leur voix. Et après de nombreuses années de lutte, ils doivent quitter le village. Et c'est un échec. Et donc, on peut imaginer, ou en tout cas... À la fois, dans le récit de cette lutte, il y a une grande souffrance, il y a des témoignages que j'ai retrouvés dans un lieu dont on va peut-être parler, où tout est consigné, où toute l'histoire de cette lutte est consignée, dans une sorte de musée. Il y a des témoignages vraiment, moi, qui m'ont, profondément émue de ce que c'est de vivre au bord du cratère en entendant la machine qui creuse, l'excavatrice, et puis de vivre voilà dans ce monde-là. Et c'est une histoire qui finit mal, mais ce que j'ai compris finalement, c'est que ça reste une histoire d'attachement. C'est-à-dire que toute cette énergie qui a été mise dans la lutte n'est pas une énergie perdue. Toute l'énergie, elle témoigne du fait qu'on aimait le lieu où on vivait. Et dans cette espèce d'énergie et de force, il y a aussi peut-être la possibilité de s'attacher à un nouveau lieu.
Ah oui, c'est tout à fait, c'est très intéressant. Il y a aussi l'homophonie entre la mer intérieure,
oui.
La mer marine, MER, et la mer intérieure. Alors, lorsque l'on pense à intérieur, en tout cas moi, on pense à son ventre. Et alors, il y a le noir informel, il y a le liquide amniotique autour de l'embryon, il y a cette homophonie avec la mère intérieure, la maman intérieure, que l'on porte toute sa vie. Donc ça aussi, ça rejoint cette idée de ventre, de liquide amniotique. Comment s'est passé pour vous l'écriture de ce livre? Parce que c'est vraiment très intéressant, les procédés d'écriture et comment vous arrivez à sublimer un sujet assez opaque en un texte poétique avec beaucoup d'intelligence dans les interstices.
Oui, je trouve ça très beau, les résonances que vous faites entendre. Ce monde aquatique de la vie fœtale et le lac. C'est la richesse des mots. J'avais pas forcément pensé à cette résonance-là de l'aquatique et du liquide, mais vous avez complètement raison. Alors peut-être que le plus simple, c'est de dire quelque chose de ma méthode. Donc moi, je vais sur un lieu en me disant voilà l'histoire que je vais raconter, voilà l'histoire qui m'intéresse. Il y a une violence qui est une violence économique. Il y a cette perte, cet arrachement dont on a parlé. Donc je suis allée dans un musée qui retrace cette histoire. Et puis ensuite, je suis rentrée chez moi et j'ai commencé à écrire avec les matériaux que j'avais, qui étaient en partie des matériaux qui m'émouvaient beaucoup. Parce qu'effectivement, il y a le couple, l'image du couple qui ouvre le livre. C'est quelque chose de très touchant quand on pense à deux vieilles personnes qui ont travaillé la terre pendant toute leur vie et puis qui doivent quitter finalement un jardin qui était le jardin du grand-père aussi. Une fois que j'ai fait mon travail de recherche sérieux, documenté, j'écris. Et là, quand j'écris, je laisse advenir les choses. J'essaie aussi de faire un beau livre, parce que je trouve que quand on parle de violence et de perte et de souffrance, il faut qu'il y ait une dimension d'hommage, qu'il y ait un soin apporté aux phrases, au rythme. Et dans l'écriture, quelque chose a surgi que je ne m'attendais pas du tout à voir surgir, c'est le fait que moi-même j'ai vécu un deuil assez jeune, puisque j'avais 18 ans quand ma propre mère est morte après une longue lutte, d'une longue maladie comme on dit. Et cet aspect-là de ma vie, de ma biographie, dont je parle généralement pas et dont j'ai pas envie de parler énormément non plus, a ressurgi dans l'écriture du livre. Et en fait, je l'ai laissé comme une espèce de broderie, comme quelque chose qui affleure. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai pensé. Et j'aurais très bien pu écrire, laisser surgir et puis finalement couper, gommer et dire ben non, ça, c'est pas du tout la même histoire, ça n'a rien à voir. Mais la raison pour laquelle je l'ai laissé, c'est il y a deux raisons. La première, c'est que en écrivant sur ce village, j'ai compris aussi quelque chose de mon histoire, c'est que certes, j'avais perdu une personne très chère quand j'étais assez jeune, et c'est triste, même si ça fait partie de la vie, comme on dit. Et puis c'est des deuils auxquels beaucoup de personnes sont confrontées. Mais cette mort-là, elle était survenue après une longue lutte. Et j'ai compris un petit peu le sens que pouvait avoir cette lutte aussi, d'une mère qui reste en vie, qui lutte pour rester en vie le plus longtemps possible. Et c'est pas exactement la même histoire quand on la raconte comme ça, je trouve. L'autre chose, l'autre raison, c'est qu'il est question dans mon texte de compensation. Les personnes qui perdent ce village, on leur propose, dans le monde capitaliste, d'après la chute du mur, de leur donner beaucoup d'argent et de leur permettre d'avoir leur village reconstruit presque à l'identique, pas très loin de l'endroit où ils habitaient. Et évidemment, on peut se dire, bah, c'est normal, on rase un village, on compense. Mais moi, je crois que ce que j'avais envie de faire entendre, c'est l'idée qu'il y a des pertes qui sont irremplaçables. Il y a des destructions qu'on ne peut pas compenser. Et qu'il y a presque quelque chose d'indécent à se dire, oh bah, de toute façon, puisqu'on peut compenser, on peut détruire. Et ça, c'est quand même une logique qui est assez présente de manière générale. Et donc, inscrire l'histoire d'une perte ou d'un deuil d'un enfant qui perd sa mère, je pense que ça donnait aussi cette image-là, cette analogie de la perte irremplaçable. On dirait pas à quelqu'un qui vient de perdre un proche, mais ne t'inquiète pas, c'est bon, on va pouvoir remplacer par quelqu'un d'autre qui ressemble. Ça semble absurde comme ça, mais je pense que pour moi, c'était aussi important de faire comprendre qu'il y a quelque chose de très choquant à mes yeux dans l'idée qu'on peut compenser certaines pertes.
Alors, je suis très impressionnée parce que vous laissez entendre sans le dire, c'est-à-dire que vous avez travaillé comme pour une peinture. Lorsqu'on peint, on ose des choses et puis qu'on n'aime pas et puis on efface et parfois on laisse des bribes et ces bribes amorcent de nouvelles trajectoires, de nouvelles idées et c'est ce tissage. Moi, je suis peintre et puis donc j'ai vu dans ce travail d'écriture cette sédimentation d'erreurs, de miracles, de choses rescapées dans un coin. Donc il y a ça, peinture, et puis j'aime bien cette idée parce que j'ai lu aussi à votre propos que votre travail s'associe régulièrement à celui d'artiste, comme dans Tout aura brûlé avec les lithographies de Sidonie Mangin, ou avec les photographies de David Falco pour l'exposition Entre-temps. Vous donnez aussi également régulièrement des lectures de ces textes, donc vous avez une façon d'artiste dans votre une façon de traverser, de faire vos textes. Comme une artiste, une artiste quoi. Et puis, ce que j'ai aussi aimé, c'est que vous êtes nomade, vous bougez, vous avez donc une enquête autour d'une mine, vous laissez affleurer les choses, des idées viennent à vous, vous êtes réceptive, vous êtes à l'écoute, vous êtes malléable par rapport à votre travail. Vous changez, vous bougez, par exemple, vous avez bougé du sujet d'une enquête vers un texte pratiquement poétique.
Oui. Oui, alors c'est très juste. Et par rapport au fait par rapport à la question de l'art, moi c'est vraiment comme ça que je comprends mon travail. Je dissocie pas vraiment, enfin je sais bien que c'est très très différent, on n'a pas les mêmes matériaux, et puis surtout le peintre a son geste, le musicien a sa longue pratique, l'écrivain aussi remarqué, mais en tout cas c'est oui, moi pour moi l'écriture c'est un art parmi les autres. Et il se trouve que c'est celui que je pratique. Mais aussi dans le processus d'écriture, effectivement, je laisse advenir des choses. Et après, je coupe, hein, évidemment, je laisse pas toujours tout. Mais le fait d'avoir cette espèce de souplesse, ça permet aussi de faire venir des choses qu'on n'aurait pas soupçonnées et comme vous le dites, de découvrir des pistes en fait. On savait pas qu'elles étaient là, mais en fait, en étant un peu souple et en laissant les choses venir, on se dit ah mais en fait là il y a une piste que je pourrais creuser.
Bien, Lucie Taïeb, je vous remercie beaucoup de nous avoir parlé avec beaucoup de finesse de votre texte, La mer, M-E-R, intérieur, enquête, en plus loin quête d'un paysage effacé, très intéressant et très stimulant pour l'imaginaire. Merci beaucoup. Ça paraît, oui, aux éditions Flammarion, dans une nouvelle collection, Terra Incognita, qui semble être très prometteuse. Merci beaucoup et à bientôt, j'espère, pour un autre interview.
Merci beaucoup. Merci à vous.
Merci. Au revoir.
Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Oh,